Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks? No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl. Can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, 23e épisode déjà de la saison 6 avec l'ami Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue à toi, on va revoir avec toi les sujets du jour, les séries également que tu as pu te mettre sous la dent et revoir dernièrement avec la vie qui s'ensuit. On t'écoute déjà.
Alors, je vais commencer par une nouveauté qui nous a été proposée par Netflix il n'y a donc pas si longtemps que ça. Et c'est une série très très courte puisqu'il s'agit de 7 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun. Donc autant dire que c'est passé très vite.
Et on comprend que tu as déjà tout consommé.
Voilà, évidemment. Ça s'appelle Bonding.
Ah oui.
Voilà, pour ceux qui n'auraient pas osé aller voir de quoi ça parle. Alors, de fait, hein, c'est le titre l'indique bien. On va explorer un petit peu les pratiques du bondage. Donc, je sais pas comment expliquer ça, les trucs un peu sadomaso.
Voilà.
Voilà. Mais sur un thème plutôt très très léger. Il y a rien de véritablement extrêmement. Enfin, à la fois on comprend tout ce qui se passe, c'est bien suggéré, mais il y a à aucun moment, aucune image choquante ou véritablement dérangeante. Le but n'est pas de mettre mal à l'aise, le but n'est pas non plus d'exciter la personne qui serait en manque de sollicitations sexuelles, je n'en sais rien. Ici, on suit en fait davantage deux personnages. Une jeune femme qui est dominatrix, donc, puisque c'est ainsi qu'on les appelle. Et elle a un certain talent pour ça parce que justement on apprend à découvrir qu'elle a quand même pas mal de mal à ne pas tout contrôler, et donc c'est une manière pour elle d'allier un petit peu ses propres démons psychologiques avec une activité quand même rémunératrice, hein, aussi. Et son meilleur ami de lycée, avec lequel elle a eu une relation un petit peu compliquée, qui est un comédien en tout cas, qui aimerait bien être un comédien, mais il n'ose pas monter sur scène. Donc on le retrouve dans le premier épisode à attendre son tour et puis au dernier moment finalement partir. Et apparemment c'est une habitude chez lui. Donc comédien très très raté, hein, on pourrait dire, et qui va trouver dans le rôle d'assistant de son ami l'occasion d'un petit peu peut-être sortir de sa coquille et explorer ses capacités finalement à jouer un personnage et à s'affirmer tout simplement je ne sais pas si j'ai dit, mais son personnage est gay, donc il n'est pas question de relation amoureuse entre ces deux personnages, ce qui met les choses à plat dès le départ. Mais malgré tout, il y a une véritable histoire entre deux qui est assez intéressante à découvrir. C'est une série, comme je l'ai dit, qui est extrêmement courte, et donc il faut pas du tout s'attendre à ni une grande exploration psychologique, ni une accumulation de personnages et de situations. Au contraire, on va être très très concentré sur ce duo-là, sur leur évolution à eux au fil des 7 épisodes. Et moi, ça m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est assez drôle, les situations, notamment dans les différentes scènes ou de domination, je sais pas comment appeler ça, sont à chaque fois plutôt cocasses et l'occasion de découvrir des pratiques peut-être auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais toujours sur un mode très dédramatisant et assez bienveillant, je trouve. C'est jamais voyeuriste, c'est jamais non plus sur le jugement. On est vraiment sur un mode très bienveillant, avec une manière de mettre en scène tout ça très très acidulé, avec des images, avec des couleurs très très lumineuses, très pop, et je dois dire que ça aide aussi à la légèreté de la chose. Mais donc c'est assez drôle, toutes les situations dans lesquelles on les voit évoluer au fur et à mesure des épisodes. Et puis, tout de suite, j'ai trouvé les deux personnages très attachants. Il y a une manière de traiter leur relation entre eux et puis leur relation chacun de leur côté qui moi, m'a semblé sonner juste. Et donc, il a vraiment pas fallu longtemps pour que je m'attache à ces personnages et que j'ai envie de continuer à les suivre. Donc c'est tout ce que je peux espérer maintenant qu'ils m'ont mis l'eau à la bouche, c'est que on en aura plus, voilà.
Voilà, on en redemande.
Exactement, oui, c'est trop court. Hein.
Oui, c'est vrai que ça, l'impression que j'en ai aussi, c'est que c'est passé très vite.
C'est passé,
et j'ai
ouais.
pas tout vu, hein, parce que tu as consommé aussi ça, de ton côté très très vite, et je n'arrive pas à suivre.
Ben non, t'es très occupé, y paraît-il.
Voilà.
Bon, donc ça s'appelle Bonding, et c'est Netflix qui nous propose ça en ce moment. Ne craignez rien, vous pouvez y aller sans risque d'être trop choqué. Ça devrait aller, ça devrait passer sans problème.
Deuxième
nouveauté dont je voulais parler aujourd'hui, cette fois-ci il s'agit d'une série qui a commencé sur la CW et qui s'appelle In the Dark. Mm-hmm. Alors In the Dark, ça nous propose de suivre une héroïne principale qui a la particularité d'être aveugle. Ça n'arrive pas si souvent que ça d'avoir des héros de série aveugle, hein. Je suis même pas sûre d'en avoir déjà vu. Faudrait que je réfléchisse plus, mais en tout cas, on suit donc ce personnage qui, évidemment, n'a pas que cette caractéristique-là, sinon ce serait un petit peu léger. C'est une jeune fille qui doit traverser la vie avec ce handicap qui la rend parfois un peu un peu amer, on va dire, qui a une manière de gérer ses relations qui n'est pas extrêmement saine, une manière de gérer aussi ses émotions qui passent beaucoup par l'alcool, la drogue éventuellement et le sexe sans lendemain. Hein, donc c'est un personnage assez rock'n'roll. Qui va se retrouver dans une situation assez terrible puisque elle s'était liée d'amitié avec un jeune personnage qui dealait de la drogue dans un coin de rue, et un soir, alors qu'elle va le rencontrer, elle le découvre mort. Mais évidemment, étant donné qu'elle est aveugle et que une fois que la police arrive, le corps a disparu, personne ne veut croire que cette personne est bel et bien morte, vu qu'elle n'a pas énormément de crédibilité aux yeux des forces de l'ordre, apparemment, ni d'ailleurs trop de sa famille. Hein. Donc elle décide un petit peu, à elle toute seule, de mener son enquête de son côté, avec les difficultés qu'elle peut rencontrer en chemin, vu l'absence de vision, premièrement, et puis vu aussi son caractère assez trempé et désagréable parfois. J'ai vu deux épisodes de cette série pour le moment. Et pour tout te dire, dès le pilote, vraiment, j'ai accroché, j'ai trouvé cette série avait quelque chose de différent. Il y a énormément de séries qu'on regarde en ce moment où on se dit « Ah oui, ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela, c'est du déjà-vu, la trame narrative, je vois plus ou moins à quoi on veut faire référence, le personnage, le caractère des personnages, ou bien éventuellement les dialogues aussi. » Et là, il y a quelque chose de très frais dans cette série-là, qui l'a fait ressembler, en tout cas j'ai eu l'impression sur les deux épisodes que j'ai pu voir, à aucune autre pour le moment. Et donc c'est un vrai petit coup de cœur que j'ai pour cette série, pourvu que ça dure évidemment, mais franchement j'ai très bon espoir, ne sachant pas du tout vers où on va me mener. Hein. C'est une enquête, donc, mais en même temps, y a plein de choses qui se passent autour, en dehors même de cette enquête-là, puisqu'elle se lie d'amitié ou de sympathie avec divers personnages qui sont eux aussi intéressants, qui apportent chacun une dimension supplémentaire à la vie de cette héroïne. Et donc, c'est très intéressant à suivre, ne serait-ce que sur le traitement de ce personnage qui est différent d'une manière totalement différente de ce qu'on essaie de nous présenter habituellement. Tu vois, le personnage qui se la joue, je suis marginal, je suis... par exemple, le flic un petit peu alcoolique et déprimé, ou enfin, ce sont des types qu'on a déjà vus des milliers de fois. Et là, ce personnage-là, il n'a pas d'équivalent. Il a un franc-parler qui n'a pas d'équivalent non plus. Et ça fait vraiment du bien à regarder. Donc, ne serait-ce que pour le traitement du personnage, des dialogues qui m'ont plusieurs fois fait rire, alors que bon, c'est pas une comédie, hein, mais c'est vraiment traité sur un ton qui est très attachant. Donc voilà, je le conseille chaudement. Ça s'appelle In the Dark.
Voilà pour les séries un peu plus récentes et nouvelles. Et puis le reste, eh bien, c'est une revue de séries qui quoi se termine. Non.
C'est des séries qui ne sont pas nouvelles.
Non, mais on n'est pas sur une dernière saison.
Non, pas d'accord. Pour celle-ci, en tout cas j'espère, hein. Je ne sais pas, elle peut ne pas être renouvelée. Je voulais parler aujourd'hui, pour la troisième série, de For the People, qui est revenue pour sa deuxième saison. For the People, donc, c'est une série judiciaire qui nous fait suivre des jeunes personnages qui travaillent, trois d'entre eux dans le bureau du procureur et trois d'entre eux dans le bureau de la défense, défense publique, j'imagine. Enfin, ce sont pas des avocats qui se font payer, ce sont des la défense publique. Bon. Oui. Je sais pas comment l'appeler d'autre. J'avais déjà bien accroché à la saison 1, et donc c'est avec plaisir que j'ai retrouvé chacun de ces personnages là, même si c'est quelque chose d'assez basique, hein. C'est vraiment des récits clos, quelques affaires, une, deux, maximum peut-être trois affaires sur un épisode. À la fin de l'épisode, on a la résolution, point. Il n'y a pas vraiment de grand fil conducteur sur l'ensemble de la saison ou quoi que ce soit. Néanmoins, comme les personnages étaient attachants et que les sujets, je trouvais, étaient à la fois légers, mais quand même un petit peu intéressant, mais c'est une série que j'avais hâte de retrouver. Elle est donc revenue. Elle reste totalement sur le même mode que précédemment. J'ai juste repéré 2-3 épisodes qui m'ont vraiment bien plu sur leur thème. Et donc où je me suis dit, ben franchement, ça fait plaisir de voir ces sujets-là traités à la télévision sur un mode auquel on s'attend pas toujours, même si c'est évidemment simpliste, même si il y a évidemment énormément de bons sentiments, hein. Je crois que quand je l'avais présenté l'année passée, j'avais dit que c'était une série véritablement qui est bienveillante envers ces personnages, mais bienveillante aussi envers la société, les thèmes de société qu'elle traite. Ici, c'est la même chose, mais elle traite des sujets qui sont pas forcément si évidents que ça à traiter. Je pense notamment à un épisode qui probablement est celui qui m'a le plus plu jusqu'à présent dans cette saison 2, qui faisait clairement référence à la saison 2 de Making a Murderer. Alors, évidemment, faut avoir vu le documentaire, donc la saison 2 de Making a Murderer pour l'avoir vu, mais quand tu l'as vu, ça saute vraiment aux yeux, parce que tu as donc un personnage dans cet épisode-là dont les aveux ont été forcés, et la disposition du local dans lequel ces aveux ont été obtenus par la police est vraiment presque totalement identique à celle dans laquelle je crois que c'est Jason, celui qui a dans Making a Murderer le neveu. Je sais plus.
Mais alors, bon. Le prénom.
Quoi qu'il en soit, ça ressemble vraiment beaucoup et c'est filmé aussi de la même manière. Donc, pour moi, c'est vraiment un clin d'œil à cette affaire-là, puisque c'est une vraie affaire, hein. Et j'ai trouvé que non seulement c'était une bonne chose que d'autres séries s'emparent de ce sujet-là, parce que malgré tout, quand tu as vu la saison 2, que tu l'as regardée jusqu'au bout, tu restes totalement sur ta faim et tu te dis ah, voilà, c'est tout, merci, au revoir. C'est très très frustrant, et là ça faisait du bien de réactiver un petit peu le thème en question. Et puis en plus, c'est traité très intelligemment. J'avais un petit peu peur que ce soit traité sur un mode un petit peu rassurant, rendormez-vous braves gens, la justice veille, vous n'avez pas à vous inquiéter. En fait, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Ça faisait un petit peu désordre la fin de Making a Murderer, mais dans For the People, on va soigner les blessures de cette histoire-là. Et c'est pas l'option qui a été choisie. Et je trouve que non seulement c'est bien joué, mais ça a été bien mené. Je trouve que même si c'est fait probablement pas avec énormément de moyens ni avec énormément de possibilités de complexité, puisque c'est une série de network, comme je l'ai dit, sans véritable arc qui dure sur l'ensemble de la saison et tout. Donc c'est forcément extrêmement simpliste, et pourtant avec ces moyens relativement réduits, ils arrivent quand même à faire passer quelques messages intéressants. Idem, un petit peu avant, il y avait eu un épisode aussi qui traitait du sort des enfants de migrants. Hein, on sait que, notamment aux États-Unis, même si on aimerait que ce soit uniquement là-bas, mais donc notamment aux États-Unis, au moins là-bas, ils ont l'avantage d'en parler. Il y a eu énormément de problèmes avec des enfants de migrants qui ont été notamment séparés de leurs parents et puis qui ont disparu dans le système et... personne, quelque part, ne sait où ils sont passés. Hein, et ce sujet-là a aussi fait l'objet d'un épisode. Et à nouveau, un épisode qui vient pas rassurer les gens en disant « Ah, mais grâce à la justice, tout s'arrange. » On n'est pas du tout sur ce mode-là. Au contraire...
Ça dénonce un peu.
Oui, on parle vraiment des sujets sur un mode toujours très léger et divertissant, hein. On n'est pas en train d'essayer de donner une leçon, mais malgré tout le message passe, quoi. Et je trouve ça important que des séries de network, c'est-à-dire quand même des séries qui sont destinées au plus large public, puissent encore prendre en main ce genre de thème-là. Donc voilà, je sais que c'est une série qui n'est pas extrêmement défendue, notamment parce que c'est une série qui fait partie de l'univers de Shonda Rhimes, mais sans être une série de Shonda Rhimes elle-même. Mais néanmoins, moi je trouve vraiment que c'est une série qui vaut la peine qu'on s'y attarde. C'est une série agréable à regarder, on ne s'ennuie pas, et en plus elle est courageuse, voilà.
Voilà. Bon, avant de passer à la musique, on va juste revenir sur Making a Murderer. J'ai fait une petite recherche. Donc, c'est Steven Avery et son neveu, Brendan Dassey.
Ah, c'est Brendan. Voilà. C'est pas Jason, c'est Brendan.
Mais comme ça, on ne part pas avec un grand point d'interrogation.
Tu as raison, oui. On passe à la musique, j'imagine.
Si tu veux bien.
Alors, on va s'écouter Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, entendu dans Gilmore Girls.
And I just can't wait till the day when you knock.
Nous sommes de retour pour aborder le sujet du jour dans Série Folie. Quel est-il, chère Aurore ?
On va parler de la manière dont les séries nous proposent bien souvent des modèles réduits de la société. Je vais essayer d'expliquer ça le mieux possible. Alors, la première chose, si on veut partir du premier constat, c'est que les séries, évidemment, elles sont toujours une sorte de paraphrase de la réalité, une sorte de reflet en modèle réduit de notre réalité ou d'une réalité alternative éventuellement. Elle propose généralement un microcosme tissé par des réseaux de sociabilité plus ou moins complexes. Ceci dit, je crois que toutes les séries, quand même, n'ont pas pour vocation ou pour ambition de nous représenter, que ce soit véritablement des représentations en modèle réduit de la société dans son ensemble. Elles sont même assez peu nombreuses, celles qui ont cette ambition-là, ou bien éventuellement des sociétés totalement alternatives. Je crois que certaines séries vont créer leur univers en tissant bien davantage des réseaux autour des relations affectives, tout simplement. On va être dans la relation, dans l'exploration psychologique, éventuellement, des différents personnages. Il y en a d'autres qui vont davantage explorer la mythologie de l'univers qu'ils proposent, avec plutôt des croyances, des créatures extraordinaires, une véritable mythologie. Et puis, il y a des séries qui vont davantage mettre les mains d'ailleurs dans le cambouis de tout ce qu'on pourrait appeler le politique, c'est-à-dire finalement comment ça fonctionne la société, comment est-ce qu'on arrive à avoir une cohérence entre les individus, comment on forme un collectif, toutes ces questions-là, comment ça marche, quels sont les différents enjeux qui se jouent entre ces individus, et puis aussi la question des règles qui permettent à cette société d'exister et de se perpétuer. Donc elles vont traiter d'énormément de choses différentes, et évidemment toutes les séries dont je vais parler aujourd'hui n'arrivent pas à explorer l'ensemble de ces choses, mais elles vont nous dire quelque chose sur les groupes d'intérêts qui peuvent exister au sein de la société, par exemple. Alors certaines vont explorer seulement un seul groupe d'intérêt et en faire véritablement leur sujet de préoccupation, tandis que d'autres vont plus s'intéresser aux relations qu'il y a entre ces différents groupes d'intérêt. On va évidemment avoir des questions autour des rapports de pouvoir, les rapports de pouvoir entre individus au sein de la société, mais les rapports de pouvoir aussi entre les différents groupes, hein. Le fonctionnement aussi, bêtement, hein. Comment toute cette mécanique sociale arrive à se tourner de manière plus ou moins cohérente. C'est en ça, finalement, que c'est intéressant pour une série, hein. Généralement, une série, et d'ailleurs un récit en général, ça a besoin d'une forme de cohérence. L'ensemble de la fonction du récit, c'est de donner donner du sens, donner de la cohérence au monde qui nous entoure. Et là, ben, on a un sujet justement qui est particulièrement adapté à cette capacité-là qu'a le récit. Ben, le politique offre une possibilité d'explorer la cohérence dans le fonctionnement de la manière dont les relations entre les gens se déroulent. Et puis, évidemment, dans cette cohérence, on va pouvoir aussi parfois explorer davantage l'interdépendance qui peut exister entre les différents individus ou entre les différents groupes qui composent les sociétés en question. Et puis, il y a aussi les séries qui vont explorer les différentes possibilités. Hein. Là, on sera davantage dans le domaine de l'avenir ou de l'imaginaire. On va explorer des utopies, des dystopies, et puis aussi les enjeux qui peuvent animer le débat social du moment, hein, puisque les séries ne sont jamais totalement éloignées du contexte dans lequel elles ont été créées, et les séries qui traitent de politique, forcément encore moins que les autres. Donc, quels sont les exemples qu'on pourrait donner à tout ça? Par exemple, si on regarde les séries qui vont explorer davantage les possibles, on pourrait se tourner vers une série comme The Handmaid's Tale, hein, forcément sur le côté très dystopique en l'occurrence, ou bien The Man in the High Castle, où là on explore un monde qui heureusement n'est pas advenu, où le nazisme aurait réussi à l'emporter lors de la Deuxième Guerre mondiale et se serait imposé aux États-Unis, se partageant les États-Unis avec le Japon qui occuperait toute la côte ouest, là où les nazis occuperaient la côte est. Donc ça, ce sont des explorations véritablement dystopiques, mais sur un mode un petit peu différent, on peut envisager... Alors c'est une série peut-être moins connue, mais il y a 2 ans, il y avait la série Epibi qui nous proposait un milliardaire qui mettait sa fortune au service d'un quartier de la police d'un quartier d'une grande ville, je sais plus quelle grande ville d'ailleurs, mais avec un système informatique qui permettait de quadriller le quartier de manière extrêmement efficace. Et donc là aussi, c'est... Alors, est-ce que c'est une utopie? Ça, c'est à chacun de juger en fonction de ses opinions politiques, évidemment, mais au minimum, c'était une manière d'explorer une autre manière de gérer un problème social et politique. Hein. La police, c'est quand même un problème collectif important à travers une solution qui était, en tout cas, je crois et j'espère, totalement imaginaire. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis au niveau de l'exploration des enjeux et aussi de jusqu'où ça peut aller, on avait aussi une série comme Person of Interest qui était sur ce mode-là, qui prenait... Ben, finalement, une problématique qui est bel et bien présente dans nos sociétés actuelles, la surveillance par des systèmes informatiques de plus en plus intelligents, de plus en plus capables de faire des liens entre les gens, de surveiller ce qu'ils disent, de reconnaître leur visage dans une foule, etc. Et puis, aller au bout de cette idée-là en imaginant jusqu'où ça pourrait aller et quels sont les enjeux collectifs et sociaux qui peuvent en retirer. Donc c'était une exploration pas mal intéressante aussi. Au niveau des rapports de pouvoir, ben, y a évidemment énormément de séries qui vont nous proposer d'explorer la manière dont les différents groupes au sein d'une société peuvent jouer sur des rapports de pouvoir. On ne peut pas ne pas penser à Game of Thrones quand on parle de ça actuellement, mais Game of Thrones est loin d'être la seule série qui traite de cette question. Je pense à une série comme Deadwood qui traite aussi de cette question-là, une série comme The Walking Dead va aussi proposer une exploration des rapports de pouvoir et des manières parfois très violentes de s'imposer aussi vis-à-vis d'autres groupes qui sont considérés comme éventuellement dangereux. On peut penser à des séries beaucoup plus éloignés de la réalité comme Gotham par exemple, où là aussi il y a les rapports de pouvoir entre les différents vilains de Gotham, la police, évidemment Bruce Wayne, enfin il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. J'avais pensé aussi à une série comme The Wire, où on peut estimer que évidemment les intérêts des policiers, les intérêts des politiciens, les intérêts des acteurs de l'école, les intérêts des enfants, d'ailleurs aussi des différents enfants qui sont suivis par la série, les intérêts des chefs, différents chefs de la police, etc., les intérêts de la presse, etc., et les intérêts des dealers, les intérêts des syndicats, enfin, tous ces différents groupes d'intérêts ont des rapports de pouvoir et on a l'occasion d'explorer tous ces rapports de pouvoir sur les 5 saisons que propose la série. Donc ça aussi, c'était une manière de traiter de ces rapports de pouvoir. Au niveau du fonctionnement davantage, comment toute cette mécanique s'enchaîne plus ou moins facilement, plus ou moins bien, où on explore vraiment les rouages du système. À nouveau, évidemment, on pense à The Wire, hein, qui a quand même par son exigence de documentaire quasiment, enfin de journalistique au minimum, à explore véritablement les dessous d'un enjeu en particulier, qui est l'enjeu de la drogue à Baltimore, mais on peut penser aussi à des séries assez différentes où on va explorer la manière dont les relations peuvent se gérer plus ou moins bien. Je peux penser à une série comme The West Wing ou bien The Newsroom, par exemple. On peut penser à VIP aussi, sur un modèle évidemment beaucoup plus léger de comédie, ou Silicon Valley. Hein. On peut penser à des séries qui vont plus se concentrer sur les individus, même si les rapports de pouvoir sont quand même bien présents dans les comédies autour du travail comme Superstore, The Office et Parks and Recreation. On va avoir aussi la possibilité de voir comment fonctionnent certains milieux. Dans une mini-société qui semble très très éloignée de la politique, mais en même temps tellement éloignée de la politique qu'elle fonctionne presque en vase clos. Elle est une société à elle seule. Le petit quartier de Wisteria Lane dans Desperate Housewives lui aussi a son propre fonctionnement dont il faut comprendre un petit peu les dessous pour réussir à en saisir les enjeux, de même que Big Little Lies d'ailleurs. Donc ça aussi c'est intéressant de voir que envisager la politique et la manière dont les micro-sociétés fonctionnent dans les séries, ce ne sera pas uniquement au niveau institutionnel, ça peut même être au niveau d'endroits où on a l'impression que la politique est absente. Mais quand la politique est absente, les relations humaines continuent quand même à avoir lieu. Et donc, c'est qu'il y a des règles, ne serait-ce que des règles non dites, président à leur fonctionnement. On peut aussi parler des très nombreuses séries de science-fiction qui vont aussi traiter des relations, par exemple, avec les différentes races qui peuvent exister dans l'espace. On peut penser à une série comme Star Trek, par exemple, ou bien d'autres sur le même modèle. Bon, évidemment, on pourrait encore en citer d'autres, mais ce ne sont que des exemples. Au niveau de l'interdépendance qui peut exister entre les différents acteurs d'une société, j'avais pensé à, par exemple, une série comme Urgence ou comme Law and Order, où on voit la manière dont la police, la justice et puis la société civile peuvent fonctionner les uns par rapport aux autres, où c'est pas forcément toujours des rapports de pouvoir, mais au contraire, on est dans une sorte de d'accumulation de couches où explorer un milieu, c'est aussi l'occasion de voir comment fonctionnent les autres milieux. C'est particulièrement vrai dans Urgence, où finalement on quitte assez rarement le service des urgences de l'hôpital, mais ce service des urgences est l'occasion d'avoir une sorte de fenêtre ouverte sur tous les problèmes sociaux qui peuvent se rencontrer dans la ville de Chicago qui l'entoure, quoi. Sur un mode beaucoup plus léger, on peut penser aux Simpsons aussi, où on va aussi avoir une interdépendance entre tous les personnages. On peut penser aussi à une série comme $1, où on voyait bien épisode après épisode comment les histoires individuelles de chaque personnage qui était suivi finalement avaient une résonance avec tous les autres personnages de la ville, et où on voit vraiment que personne n'est jamais totalement isolé et ne fait ses choix totalement seul. Donc voilà, tout ça peut être exploré par différentes séries auxquelles on pourrait rajouter beaucoup d'autres exemples. Elle fonctionne aussi parfois comme des systèmes narratifs en vase clos, un petit peu artificiels. Ça peut arriver. Bon, j'ai cité le cas de Desperate Housewives. C'est vrai que le côté très clos de ce petit quartier de Wisteria Lane peut paraître assez artificiel, surtout dans sa fermeture finalement au reste du monde. On peut penser aussi à une série comme Gilmore Girls, où là aussi l'espèce de micro-climat, micro-ambiance qui existe dans la petite ville où se passe la série peut avoir des côtés un petit peu artificiels parfois, mais en même temps, c'est aussi l'occasion d'explorer les règles d'un jeu, mais véritablement comme des règles totalement, enfin pas totalement extérieur à notre société à nous, mais en tout cas de voir le côté un petit peu artificiel justement des règles qu'on se choisit. J'avais cité Gilmore Girls ou Desperate Housewives, mais sur un mode peut-être plus évident pour ce que je viens de dire, les séries comme Trial and Error ou bien The Good Place, avec leur manière de fonctionner dans leur univers relativement clos et très très barré au niveau imagination, ça permet vraiment de prendre conscience que chaque milieu a ses propres règles, sa propre manière de fonctionner, et donc c'est un véritable jeu qui peut être assez intéressant à suivre. Sachant que, bah, évidemment, il y a les règles officielles hein, qui peuvent être énoncées dans certaines séries. Une série comme Law and Order, évidemment, est l'exemple type de la série qui va énoncer les règles officielles de la société, qui va nous rappeler sur quels principes elles ont été fondée, et puis ben, toutes les séries dans lesquelles il y a des règles officieuses. Si on rentre par exemple dans le pénitencier d'Oswald avec la série Oz, on va avoir l'occasion de voir que cette prison fonctionne sur des règles officielles, celles qui sont censées être défendues par les différents gardiens de la prison et le directeur, évidemment. Mais il y a aussi énormément de règles officieuses et si tu ne les connais pas, si tu ne les comprends pas très vite, tu le paies très cher, comme on peut le voir dès l'épisode pilote avec ce qui arrive à Beecher. Donc voilà, il y a une manière comme ça de nous faire comprendre comment fonctionne une société, quelle qu'elle soit, un collectif. Il y a des règles officielles, mais il y a aussi énormément de règles officieuses dont il faut prendre conscience. Tout ça, j'ai l'impression qu'observer toutes ces mini-sociétés avec un peu de recul, ça permet vraiment de prendre conscience de l'importance de ces règles, des enjeux de ces règles, de leur intérêt, de leur caractère parfois compliqué, mais en même temps essentiel, quoi. Donc, c'est pour ça que ces séries-là sont quand même intéressantes à observer. Quand j'ai fait un peu le point sur les différentes séries qui pouvaient rentrer dans mon sujet, j'ai l'impression qu'elles se présentent sous différentes formes. 5 en particulier, il y aurait les séries qui vont présenter davantage une sorte d'état de nature, vraiment une micro-société qui est quasiment embryonnaire, qu'on observe dans son émergence. Et donc, c'est l'occasion aussi d'observer l'invention des règles, la manière aussi dont s'impose telle ou telle figure en tant que leader, etc. On peut penser à une série comme Lost, on peut penser à Deadwood, on peut penser à The Walking Dead, on peut penser à Jamestown aussi, ou ce genre de séries-là qui vont vraiment davantage nous permettre d'explorer ça. Il y a les séries aussi qui vont, elles, nous proposer véritablement quelque chose de très très complet, un véritable microcosme relativement complet. Complexe, hein, avec énormément de liens entre les différents tenants de cet univers, vraiment une représentation de la société, mais à plus petite échelle, qui va refléter tous les aspects de la société réelle, ou en tout cas qu'on pourrait éventuellement essayer de retransposer dans notre société à nous. La série The Wire, évidemment, sur un mode relativement réaliste peut rentrer dans cette catégorie-là, mais Game of Thrones peut aussi rentrer dans cette catégorie-là. Les Simpsons, évidemment, en étant qu'une seule ville, sont aussi, à leur manière, un véritable microcosme, puisque ben, il suffit qu'ils ont besoin, pour cet épisode-là, d'avoir tel ou tel élément de la société américaine, et comme par magie, cet élément-là se retrouve dans la ville de Springfield. Si c'est pas magique, je sais pas ce que c'est. Donc, beaucoup de séries qui sont sur ce mode-là. On peut penser évidemment à South Park, comme j'en avais parlé, à Trial and Error. On peut penser à Friday Night Lights sur un autre registre. On peut penser à American Crime, qui va vraiment explorer aussi toute la complexité de la société à travers des cas individuels. Enfin, il y a beaucoup de séries qu'on pourrait ranger dans cette catégorie-là. Il y a les séries qui vont nous proposer davantage des scénarios hypothétiques, des essais politiques, pour justement voir ce que ça donne. Dans The Wire, ben, on a par exemple la fameuse expérience de Amsterdam, hein, la fameuse rue où la drogue est à disposition sans aucun risque d'être emprisonné ou inquiété par la police. Ben, ça, ce serait donc un scénario hypothétique qui est traité dans cette série-là. On peut penser à, ben, comme je l'avais déjà dit, à des séries comme The Handmaid's Tale, The Man in the High Castle, Godless aussi, une ville où il n'y a plus que des femmes. À quoi ça ressemble? La série 3%, qui était assez intéressante aussi sur son modèle. Si on offrait la possibilité seulement à 3% de la population d'accéder à l'élite, à quoi ça ressemblerait? Donc ça, c'est la troisième catégorie. La quatrième, ce sont les séries qui se concentrent uniquement sur un milieu, soit fonctionnant en vase clos et qui semble résumer la société à lui tout seul, ou bien alors qui va fonctionner avec ses propres règles. J'avais cité The West Wing ou bien The Newsroom, qui vont essayer comme ça, à travers l'exploration d'un milieu, bah, quand même de nous parler de la société dans son ensemble. On pourrait dire la même chose d'une série comme Show Me a Hero, par exemple. Des milieux beaucoup plus spécifiques, on peut penser à la série Épisode, à la série VIP, à la série Silicon Valley, ce genre de séries-là qui explorent véritablement, qui sont des comédies de mœurs, qui vont explorer comment ça marche dans ces milieux-là qui semblent quand même assez particuliers. Et puis, mais il y a les séries qui vont mettre en parallèle deux mondes pour justement les comparer, explorer la manière qu'elles ont de se répondre l'une l'autre, comme les séries Counterpart, Fringe, même dans Sabrina, hein, entre le monde des mortels et puis le monde des sorciers. Voilà, c'est ce genre de modèle-là. J'ai deux dernières petites choses à dire, je vais les dire très vite. La première chose, c'est que j'ai l'impression que dans les séries, on va en avoir certaines qui vont véritablement, et c'est parce que la manière de raconter des histoires a tendance à pousser à ça une vision relativement aristocratique, dans la mesure où on va avoir tendance à suivre uniquement les leaders, uniquement les chefs, hein, tu vois, ceux qui ceux qui se démarquent par leur action, qui prennent des décisions, etc. Parce qu'évidemment, on ne va pas suivre ceux qui passent leur temps à suivre, justement, parce que c'est quand même moins intéressant. Donc le récit a tendance à nous pousser à une vision aristocratique. On peut penser par exemple à la série Lost. C'est quelque chose qui a quand même été assez souligné, que finalement on suivait ceux qui prenaient le leadership du groupe, et puis il y a plein d'autres personnes sur cette île dont on ne sait jamais véritablement ce qu'ils font. Donc ça c'est une chose, mais en même temps il y a peut-être d'autres séries qui vont pouvoir nous permettre d'explorer ce que vit le reste de la population, hein, et pas uniquement ceux qui agissent, ceux qui décident. The Wire permet d'explorer les deux. On a des personnages qui sont plutôt des décideurs, mais on suit aussi quelques personnages, notamment le personnage de Bubble, hein, qui nous permettent de voir aussi ce que ça provoque sur les gens ordinaires. Et puis évidemment, chacune de cette série est porteuse d'une vision de l'humanité et une sorte d'idéologie politique, hein. Ça peut être une critique sociale ou ça peut présenter un idéal. Donc évidemment, tout ça est loin d'être neutre idéologiquement et c'est très en lien avec ce qui est en train de se passer à l'époque où la série est créée, évidemment.
Voilà.
Eh oui.
Merci pour ça, les mini-sociétés revues par toi, représentées dans les séries télé. On en a déjà terminé, malheureusement. On va devoir se quitter avec un dernier petit morceau musical.
On va s'écouter Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival, entendu dans Chilling Adventures of Sabrina.
Merci à toi et on se dit déjà à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.